gloire à Dieu. On va rester dans cette ouverture de cœur. Dieu est présent par son Saint-Esprit. Et tout à l'heure, on va avoir, c'est mon cinquième point du passage, du partage. Et on va voir ce temps de Sainte-Cène un peu particulier. Et je nous invite à garder en mémoire ce qu'on a entendu ce matin. Le Seigneur est là, présent par son Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a encore des victoires que le Seigneur veut que nous remportions. Que ce soit la guérison, qu'il y a ce vent dont parlait Kelly aussi tout à l'heure, ce vent de restauration, d'encouragement. Et j'ai presque envie de redescendre, si je m'écoutais personnellement. Et puis je dirais à l'équipe de louange, viens, venez, on y retourne. Et puis on continue. Mais il y a aussi les bonnes choses dans la parole. Hein. Amen. Voilà, mais ça fait plaisir hein, en tout cas de vous revoir sans masque. Ça fait 2 ans, non? Vous n'avez pas trop changé, je trouve. Ça va? Le thème ce matin, je voudrais apporter sur concernant les groupes de maison. On va apporter certains éléments concernant les groupes de maison et on va particulièrement parler aussi de la communion fraternelle. Communion fraternelle. Voilà, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui nous visitent, que ce soit dans ce lieu ou que ce soit sur Internet. Et vraiment, on se réjouit de pouvoir être ensemble. Vous savez, on a été malmenés hein, depuis 2 ans au niveau de la communion fraternelle. Je ne sais pas vous, mais je vois un peu aussi dans les églises, dans les différentes églises, il y a eu beaucoup de difficultés, pas seulement à suivre quelque part une vie d'église normale, mais en même temps, beaucoup de frères et sœurs ont baissé les bras quant à la communion. À quoi ça sert? À quoi ça sert de continuer? Et puis, on a été pas mal éprouvés. Alors, je voudrais prendre un livre dans la parole de Dieu, pas le livre entier, mais juste un chapitre et encore quelques éléments de ce chapitre. Et ça nous parle, c'est dans Hébreux chapitre 10. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre des Hébreux. On va voir particulièrement, je vais peut-être prendre ma télécommande, ça ira mieux, si on peut envoyer le PowerPoint, merci. Dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, là, je suis encore dans la louange, là. Il faut que je me connecte, parole de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, on va voir un certain nombre d'éléments qui vont nous parler pour les groupes de maison, la réalité de la communion fraternelle. Et avant d'entendre des témoignages, de parler un petit peu plus précisément de ce que l'on vit, j'ai juste envie de voir avec vous qu'en dit la Bible. Que dit la Bible de la communion fraternelle, des groupes de maison? Qu'est-ce qu'on y vit? Qu'est-ce qu'on y fait? Et dans ce contexte de Hébreux 10, nous voyons qu'à l'époque, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va écrire dans un contexte d'une église qui commence. Et dans cette église, il y a un certain nombre de difficultés, d'obstacles, de persécutions. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais en réalité, il y a quand même quelque chose de nouveau. Mais en réalité, par rapport à l'opposition, on voit des chrétiens qui sont sur le point d'arrêter, sur le point de laisser tomber, sur le point, ils sont fatigués par rapport au contexte dans lequel ils vivent. Et voilà que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va, au chapitre 10, va rappeler cette réalité de cette dimension nouvelle avec Dieu en Christ. Ça veut dire que, quelque part, qui ce matin ressent ou perçoit ou aspire à vivre quelque chose de nouveau avec Dieu? Qui ce matin se dit, mais voilà, j'aspire à être renouvelé dans ma relation avec Dieu. J'aspire à savoir quel est le sens, même si on est chrétien depuis très longtemps, pourquoi je suis sur la terre? Quel est l'objectif? Quel est le sens? Et voilà que pendant des siècles, il y a eu je veux dire, des éléments qui ont amené la venue de Christ. Et voilà que nous sommes dans Hébreux 10, et l'auteur va rappeler cette alliance nouvelle. Et il dira à l'Église, au verset 19, il dira « Frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. » Voilà que Dieu est en train de nous dire, il l'a dit aux Hébreux, aux chrétiens de l'époque, mais il nous dit encore aujourd'hui, il y a une route nouvelle, il y a un chemin nouveau, il y a une nouvelle espérance. Est-ce qu'on peut regarder son voisin et dire, écoute, t'as bien fait de venir ce matin. Je t'encourage, vraiment, c'est bien. Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Je veux vraiment t'encourager, c'est pas fini, c'est pas terminé. Amen. Alors, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Maintenant, vous savez, c'est comme en montagne. En montagne, quand on part en randonnée, vous voyez l'indication, le Mont Landru ou je ne sais pas, ou n'importe quel mont, peut-être quelque chose de plus haut encore, et vous voyez le sommet, 4 heures de marche. Et vous le voyez de loin, vous le voyez de loin. Et à ce moment-là, nous avons le choix d'abord d'être bien équipés, les chaussures qui vont avec, le sac à dos. Et puis, c'est un petit peu ce qu'on a fait ce matin, on n'a pas pris le sac à dos, mais on s'est levé, on s'est habillé, on a prié, on est venu. Et voilà que maintenant, ce matin au culte, d'un seul coup, tiens, il y a route nouvelle, présence de Dieu, renouvellement dans la vision, 4 heures de marche. Ça va, vous avez le temps ? Et là, à ce moment-là, c'est un peu ce qu'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit, mais voilà, ça c'est devant nous. Et maintenant, il y a un certain nombre de choses que nous avons à faire. On pense des fois qu'avec Dieu, ben, Dieu fait tout. La réalité, c'est que Dieu a tout fait. Et maintenant, c'est à nous à y aller. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint, s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il est dit dans Hébreux 10, si vous avez le texte ? Au verset 22, il va dire une première des choses, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait ce matin, dans la présence de Dieu. Il y a cette idée, on est dans la présence de Dieu, mais Dieu nous invite à nous approcher, à ouvrir notre cœur. Le deuxième point, au verset 23, il est dit « Retenez fermement la profession de notre espérance ». Dans Parole vivante, il est dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra parole. » Est-ce que ce matin, dans notre cœur, là où nous sommes, on peut redire ? Vous savez, quand on a été touché par la grâce de Dieu, quand on a été touché par... Ah mais c'est magnifique, je ne l'avais pas à l'écran, c'est pour ça. Donc, nouvelle alliance, merci. Route nouvelle, notre participation, s'approcher, au verset 22, retenir fermement la profession de notre espérance. Et dit, est-ce qu'on peut ce matin redire à notre âme, j'ai fait confiance à Dieu il y a combien ? 5 ans ? Il y a un an, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et ce matin, simplement, tout simplement, parce que Dieu nous entend, ça c'est vraiment c'est ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il entend ce qu'on est en train de lui dire dans notre cœur. Et il y a deux points, il y a veiller les uns sur les autres, donc il y a une démarche non seulement qui est personnelle, mais qui également va aller dans une démarche collective. Dans les 5 points que Dieu nous invite à faire dans le chapitre 10 des Hébreux. Premier, c'est quelque chose de personnel, c'est de s'approcher. Dieu est là, il est présent par son esprit, et il sait si on s'approche de lui ou si on a du mal. Mais lui, il a tout accompli. Et c'est la raison pour laquelle ça a du sens d'être ensemble, de dire, Est-ce que tu veux t'approcher ? Après, il y a cette deuxième dimension, c'est d'avoir cette confiance que Dieu dit la vérité. Le troisième point, c'est, ça c'est défiant, c'est veiller les uns sur les autres. Le quatrième point qu'on va aborder, c'est ne pas abandonner votre assemblée. Le cinquième, c'est ne pas abandonner non plus votre assurance. Et le cinquième point, on va le vivre ensemble, au verset 35 du chapitre 10, tout à l'heure, c'est de se souvenir, souvenez-vous, de se rappeler. De quoi on va se rappeler. Voilà, ça c'est les cinq points. Je voudrais plus m'attacher juste un instant sur veiller les uns sur les autres. Alors la Bible ne nous dit pas de nous surveiller les uns les autres, mais de veiller les uns sur les autres. Et là, on passe d'une démarche qui est personnelle à une démarche qui est collective. Aïe, ça se complique. Et il y a un terme grec dans la parole de Dieu qui revient 103 fois, il y en a qui l'ont calculé, c'est le mot grec « allélon », qui signifie « les uns les autres », réciproquement, mutuellement. Alors si on aime la collectivité, on est content. Si on est très individualiste et qu'on a envie qu'on nous laisse en paix, alors ça se complique. Mais ici, il est dit « veillez les uns sur les autres ». Je reviens au PowerPoint, s'il te plaît. On va rester un moment dessus, tu peux le laisser. Ce terme-là, on va, tout au long du Nouveau Testament, on va le rencontrer, et ce terme va nous amener dans la vie intime de l'Église primitive. L'Église primitive, qu'est-ce qu'elle vivait ? Alors on a les grands principes, hein. Dieu est vivant, il est sur son trône, on a des grands principes, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu d'une manière intime, quotidienne, incarnée sur la terre ? Eh bien, dans la dimension, Mathieu, si tu peux me mettre, s'il te plaît, sur l'écran. La dimension de Allélon, c'est un terme qui va nous révéler, qui va nous inviter dans la vie quotidienne de l'Église primitive. Et à chaque fois qu'il apparaît, il va évoquer un aspect relationnel de la vie du croyant. Alors, on n'a pas le temps de tout développer, mais ça, c'est l'objet d'une étude. 103 fois. Et on a une cinquantaine de fois où il est dit, mais il y a des impératifs. Et ça va nous parler, par exemple, 16 fois, et la Bible va nous inviter à nous aimer les uns les autres. Soyez en paix les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Dans Jean 13, 35, etc., il y a beaucoup de versets. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et on voit un certain nombre d'impératifs, non pas que les hommes ont simplement dit « bon, ben, ça serait une bonne idée dans l'Église, c'est une nouvelle, bon, c'est un nouveau club, on va, voilà un peu le standard », mais c'est véritablement Dieu qui inspire, qui va montrer, et Dieu lui-même en Christ dira « mais aimez-vous, prenez du... ça coûte, c'est quelque chose que Dieu nous invite à faire et à vivre ». Et d'un seul coup, on découvre que la vie avec Dieu, ce n'est pas juste une vie tout seul. Alors moi, des fois, ça ne m'a pas toujours réjoui, pour être honnête. Parce que ça me met en face de mes limites, de mon égoïsme, ça me met en face de tout ce qui, quelque part, des fois ne me plaît pas. Mais Jésus vient, il est Dieu, il est parfait, et la Bible nous dit qu'il est venu sur la terre comme un simple homme, parfaitement Dieu, et il est venu pour nous servir. Il est venu pour être en relation avec. Il est venu pour que ce matin, nous puissions être en relation avec lui, qu'on puisse être réconciliés avec lui, qu'on puisse être guéris. Je crois que quand on va prendre la Sainte Cène, je crois que Dieu se manifeste parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et il est là. Accueillez-vous, saluez-vous, réconfortez-vous les uns les autres, estimez l'autre supérieur à vous-même. Waouh. Priez les uns pour les autres. Au passage, je voudrais remercier sincèrement tous les frères et sœurs qui, depuis deux ans, même 10 ans, mais en tout cas 2 ans, on servit l'Église. Que ce soit par le ménage, par la Sainte-Seine, par la technique, tous ceux qui sont derrière, on leur met une pression des fois un peu terrible. Tous ceux qui servent au niveau des enfants, tous ceux qui servent au parking, tous ceux qui prient semaine après semaine, tous les responsables de groupes de maison qui, semaine après semaine, se donnent. Tous ceux qui servent, et j'imagine que même j'en oublie, mais je voudrais vraiment vous remercier de la part du Seigneur. Parce que tout ce que l'on fait pour Dieu, et tout ce que l'on fait pour les frères et sœurs, et aussi pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu le voit, Dieu le sait. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le craignent, qui ont la foi et qui sont actifs. Il y a comme un encouragement ce matin. Et alors je suis obligé de me retourner. La communion fraternelle, c'est une unité spirituelle profonde entre les enfants de Dieu, se manifeste par la solidarité pratique et les plans affectifs et matériel. Donc c'est un monsieur qui a dit ça, qui s'appelle Marcel Rottenauer, qui l'a verbalisé comme cela. Et on se rend compte que finalement dans l'Église primitive, c'est ce qui faisait la force des premiers chrétiens, c'était la solidarité, c'était l'entraide. C'était, quelqu'un est malade, alors des fois on a tendance à dire, on a tous des progrès, moi le premier, mais vous savez quand on est malade, quand on a une difficulté, je vois notre cher frère Tom, qui est en convalescence, il a écrit « Mais je suis vraiment gâté, merci pour les messages, merci pour les visites, merci pour la prière. » Et je me rends compte que vivre l'Église tout seul, en suivant des cultes sur Internet, c'est bien. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses encourageantes, mais rien ne vaut la communion fraternelle. Là, vous savez où on se frite un peu. Là, des fois, ça pique un peu, hein, la communion fraternelle. Proverbe 27, verset, je crois, 18, dit « Le fer aiguise le fer », en parlant des relations. Quelqu'un a dit « Le frère aiguise le frère ». Ça marche aussi pour les sœurs. Mais en même temps, c'est là où on touche du doigt la réalité. Et puis, assez vite, on se rend compte qu'on a besoin les uns des autres. Certains, pendant un an et demi, s'est dit, bon, ça va, on peut vivre sans. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais pourquoi on a besoin les uns des autres? Moi, je bénissais Dieu ce matin quand j'entendais l'Église qui était là, qui priait, qui louait. J'aime profondément l'Église, même si des fois on prend des coups, même si des fois c'est compliqué. J'aime profondément l'Église. J'aime profondément la communion fraternelle. J'aime profondément parce que je sais que c'est dans le cœur de Dieu, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui a appelé, c'est lui qui a dit « Je bâtirai mon église, le séjour des morts ne pourront prévaloir contre. » Et quelque part, le fait de se lever, pas seulement dans un club chrétien où il y a des belles valeurs, non, pas seulement, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, « Je suis au milieu d'eux, dira le Seigneur, je suis au milieu d'eux. » Quelle extraordinaire bénédiction, c'est vraiment superbe. Alors, d'un point de vue biblique, on sait que finalement, négliger la communion fraternelle, c'est rejeter une partie importante de l'enseignement biblique. Vous savez, quand il y a un professeur de la loi qui arrive et qui pose une question à Jésus lorsqu'il est sur la terre, il dira « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Si on posait la question, qu'est-ce qui est le plus important? Quel est le commandement le plus important? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Qu'est-ce qui est vraiment, quand on lit le Nouveau Testament, c'est quoi qui est fondamental? C'est quoi? On a la réponse avec Jésus dans Matthieu 22, 37. Et Jésus dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Donc Jésus dira lui-même, qui est Dieu, c'est ça qui est fondamental. C'est vraiment fondamental. Parce que, voilà, c'est le Dieu de l'univers, il sait ce qui est le mieux pour nous. Et puis il rajoutera, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dira, ce deuxième commandement lui est semblable. Ça, c'est défiant. Hein. Il dira, et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit, c'est dans la parole, on trouve, on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer les frères et sœurs. C'est comme une contradiction. Et quand il est parlé d'amour, ce n'est pas juste quelque chose qui flotte dans l'air en se disant c'est une philosophie. Non, l'amour se démontre concrètement. Quand quelqu'un est malade, on va le voir. Quand quelqu'un a besoin, on peut l'aider. On se sert pas les uns des autres. Hein. On sert. Et en servant les frères et sœurs, on sert l'Éternel, on sert Dieu. Parce que c'est son plan, c'est sa volonté. Et dans ce contexte-là, alors, il y a vraiment une richesse extraordinaire. Je vais juste prendre ce deuxième point qui, pour moi, est fondamental dans le contexte des groupes de maison. Ce sont des repères bibliques qui nous donnent la raison d'être de ces groupes de maison. Et vous savez, dans Hébreux 10, verset 25, ça c'est le fameux verset sur lequel j'ai renoncé à prêcher pendant longtemps, parce que lorsqu'on lit ce verset, il est dit, et c'est suite à cette route nouvelle pour y entrer, « N'abandonnez pas votre assemblée !» Pendant longtemps, certains responsables d'église ont instrumentalisé ce verset pour dire « Hey, faut pas changer d'église, hein, surtout pas !» Voilà. Mais la réalité, c'est pas vraiment ça que ce verset veut dire dans ce contexte. Quand il est dit de ne pas abandonner notre assemblée, ça veut pas dire que c'est extrêmement grave de changer d'église. Sur la région lausannoise, on a une bonne relation. Dans la Suisse romande, il y a des églises extraordinaires, mieux les unes que les autres, entre guillemets. C'est très charnel ce que je dis, mais... Pourquoi ? Parce qu'il y a une DNA différente, couleur différente, personnalité différente. C'est extraordinaire. Moi, j'aime l'Église. Après, c'est comme la famille. Vous savez, quand on a une famille, on ne peut pas changer de famille forcément toutes les 5 minutes. C'est compliqué. Hein ? C'est juste bien de se poser dans une famille spirituelle et puis que l'on puisse nous connaître, qu'on puisse connaître les autres, qu'on puisse être au bénéfice des dons des autres et aussi de pouvoir servir. Ça ne veut pas dire que si on change d'église, on est anathème. Hein. Mais quelque part, de demander à Dieu ce qu'il en pense, c'est quand même pas mal. Parce que certains changent d'église à la moindre difficulté, et là, on n'a pas compris. Là, on a besoin juste d'évoluer, de bouger un peu. Parce que là où il y a des difficultés, là où c'est compliqué, ben justement, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça va m'obliger à libérer le pardon, à pardonner. Ça va m'obliger à manifester les valeurs de l'Évangile. Ça va m'obliger à chercher la volonté de Dieu, à chercher le plan de Dieu. Personne ne m'aime ou je ne sais pas comment servir. Récemment, je partageais avec quelqu'un qui me disait, mais je ne savais pas quoi faire, franchement. Personne ne me dit bonjour. Quelqu'un qui est là depuis relativement pas trop longtemps. Relationnellement, c'est pauvre. Je ne sais pas comment faire pour aider. Et il y en a plusieurs qui seraient partis. Et j'ai bien aimé ce que cette personne m'a partagé. Elle a dit, cette personne, j'ai prié, j'ai cherché Dieu. Et le Seigneur m'a dit de rester. Et de moi-même manifester eh bien, ce que j'attends des autres. Je le manifeste, je le fais. Et quelque part, c'est quelque chose de fondamental. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et quelle joie. Moi, franchement, c'est... Être chrétien, juste chrétien, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. S'il n'y avait pas cette dimension de service, cette dimension de don de soi, il y a une telle, on sent que le cœur du Père est réjoui. Et en même temps, ça, c'est extraordinaire. Pour moi, quand la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, franchement, il y a un changement de mentalité. Lorsqu'on vient à l'Église, nous sommes l'Église. Et quand je parle de ça, ce n'est pas que le dimanche matin. C'est les groupes de maison, c'est quand on se réunit pour prier au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, ça veut dire qu'on accepte son autorité. Alors, il se passe quelque chose. Je me souviens, quand je me suis converti, ce qui était, moi j'étais, je me suis dit, j'allais, que ce soit dans des groupes de jeunes, je pense au groupe des hommes, des dames, des ados, j'étais là, quand je me suis converti, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? J'étais là, je dis, il me tarde, on va prier, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Qu'est-ce qu'il va me révéler? Qu'est-ce qu'il va faire? D'avoir cette, je me dis, mais c'est bien parce que Dieu est là. Si Dieu est là, il se passe quelque chose. Et s'il ne se passe rien, de toute façon, il y a un travail dans mon cœur de la parole. Donc dans la parole vivante, il dit, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Le mot grec, c'est episunagoge, peu importe le terme. Mais c'est le sens qu'il y a derrière. Ça veut dire, c'est de ne pas délaisser les rassemblements, de ne pas délaisser la communion fraternelle. Et pour, ça serait l'objet d'un autre développement, mais on sait que le mot pour rassembler dans le Nouveau Testament, c'est Ecclésia, qui a donné Église. Mais deux fois, dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, 25 et 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2, on trouve ce mot grec. Et synagogue, ça signifie rassembler, je rassemble. Par exemple, si vous faites une récolte, on va récolter les fruits, je récolte, je rassemble. Et le préfixe épi va donner l'objet du rassemblement. Et l'objet du rassemblement, lorsqu'on lit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, c'est Paul qui dira « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères et sœurs, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. » Il y a une dimension ici, la parousia et episynagogé, ça veut dire la réunion dont l'objet est Christ lui-même. Il y a une concordance entre le fait que l'on se rassemble le dimanche matin, qu'on se rassemble dans les groupes de maison, qu'on continue la communion fraternelle dans la prière, la fraction du pain, l'enseignement. Des fois c'est long hein, l'enseignement. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Non, faites-moi un signe. C'est bon, il y en a trois qui sont là. Mais je vous promets qu'on va passer quelque chose de plus digeste. Quand on se rassemble, la différence est que nous nous rassemblons parce que Dieu nous a demandé de le faire. Ce mot grec, dans la Septante, c'est la traduction grecque de la version de l'Ancien Testament, a traduit la kahale, vous savez, l'assemblée convoquée dans le désert par Dieu lui-même. Et il a utilisé ce mot. Et dans Thessaloniciens 2.1, il y a cette dimension eschatologique. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand Christ revient, on va être unis avec lui et on sera tous ensemble. On ne sera pas chacun dans une chambre tout seul, mais on sera tous ensemble. Tous ensemble. Donc le fait de se réunir, et c'est pour ça qu'on est beaucoup attaqué, que les églises sont attaquées, attaquées dans leur communion fraternelle, attaquées dans cette dimension relationnelle, parce que lorsque l'on vit avec persévérance, avec don de soi, en mettant Dieu au centre, c'est comme si, d'une manière prophétique, on est en train de dire ce qui va se passer lorsque Christ va revenir. Et lorsqu'on est dans cette obéissance, ce rassemblement, quelque part, il y a une bénédiction qui est attachée. Il y a une bénédiction qui est attachée. Et ça veut dire que Dieu nous convoque, on y va, nous sommes assemblés dans le nom du Seigneur. Donc, ce n'est pas une question de changer d'église, hein, mais c'est une question de dire, je vais persévérer dans ces relations, cette relation avec les frères et les sœurs. Donc, la vie chrétienne normale se vit dans une communauté. Vous avez ici le mot. L'important qui est à retenir, c'est que l'objet de nos rencontres, même si on est deux, trois, même dans nos groupes de maison, l'objet, le centre, c'est Dieu. Lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, pas sous son autorité. D'accord ? Le sens aussi de la synagogue juive, la synagogue est tirée de ce mot. Et ce qui est intéressant, ça prépare le sens aussi de l'Église. Ça prépare le sens dans une continuité et en même temps dans quelque chose de nouveau. Rapidement, on voit sous Esdras, le temple est détruit, la synagogue va plus se développer. Qu'est-ce qui se passe dans la synagogue ? Il y a l'enseignement de la loi, c'est un lieu de rencontre avec Dieu, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de formation pratique et d'apprentissage, c'est une maison du conseil, lieu d'assemblée, et puis c'est un lieu d'entraide, et surtout, ça a permis une continuité dans le temps. C'est-à-dire que quand le temple a été détruit, parce que la synagogue, dans cette dimension relationnelle, dans toutes ses valeurs, a préparé l'ecclésia du Nouveau Testament. Et quand on arrive dans cette dimension-là, à ce moment-là, on peut lire Actes 2, 36, 39, et on se rend compte que lorsque Christ est la tête de l'Église, le chef de l'Église, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? La Bible nous dit qu'ils vont persévérer dans quoi ? Alors qu'ils sont nés de nouveau, ils vont persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Il y a toute une autre dimension. Et c'est la raison pour laquelle la vision des groupes de maison est la suivante. On va revenir encore. On a beaucoup de... La vision des groupes de maison, c'est dans cette continuité de vivre la communion fraternelle tout en restant connecté avec l'Église, méditer la parole de Dieu, prier ensemble, édifier sa foi dans le partage des dons de chacun, on n'est pas suffisants les uns des autres, et également l'accueil de toutes et tous autour du partage des valeurs de l'Évangile. Ça va, je ne vous ai pas perdu ? Bon, alors, je propose que, au niveau des groupes de maison, qui sont-ils et où sont-ils ? Est-ce qu'on peut demander aux responsables de vous lever, s'il vous plaît ? On vous met très très à l'aise. Hein ? Est-ce qu'on a des responsables de groupe de maison ? Voilà, on peut les applaudir, on peut les remercier pour tout ce qu'ils font. Donc, qui sont-ils ? Vous avez sur le site internet la liste et vous avez également les responsables. Donc, vous avez accès à cela sur le site. Donc je ne laisse pas trop longtemps, mais voilà les différents groupes de maisons. Où sont-ils ? Qui va dans un groupe de maisons à Bussigny ? Il y en a 5. Hein. Voilà, il y en a un certain nombre. Après, on a des rencontres. Donc il y a un autre groupe à Crissier, Morges, Tolochna, Prévrange, Saint-Barthélemy, Sulan, Mont-sur-Lausanne, que vivent-ils ? Alors là, je vais enfin arrêter et je vais leur donner la parole. Donc il y a différentes couleurs hein, dans ce que vivent les groupes de maison. Donc il y en a un certain nombre qui mettent un peu plus l'accent sur un aspect que sur l'autre. Il y a un aspect générationnel, groupe de jeunes adultes, plus groupe d'hommes, etc. Mais on va les écouter. On va écouter un certain nombre de témoignages. Donc, vidéo.
Coucou tout le monde. Alors, je suis dans le groupe de maison du Mont-sur-Lausanne avec Caro et David comme responsables. Et en fait, ça fait quelques années que je suis au groupe de maison. Et ma vie a changé. Non, vraiment, c'est incroyable. D'aller à un groupe de maison, c'est un plus par rapport au dimanche où on va à l'église, où on peut se confier, c'est un cocon. On est en famille, où on se connaît les uns les autres, où il y a nos plus grands secrets. On peut vraiment se révéler, se dévoiler, et on s'y sent vraiment bien, et c'est vraiment un refuge pour moi et ma famille. Et en fait, on peut vraiment s'y tenir même en dehors du mercredi soir où on se voit. On s'écrit, on s'appelle, et puis c'est vraiment des piliers pour moi. Et ça m'a vraiment aidé aussi à trouver qui je suis, parce que c'est des gens qui te soutiennent, c'est des gens qui t'élèvent, c'est des gens qui prient pour toi, qui sont là pour toi et qui ont une vision de toi autre que ce que moi je peux avoir de moi-même, ma propre perception. Et on peut étudier la Bible, on fait vraiment beaucoup de choses qui m'ont fait tellement grandir dans ma foi. Et je leur dis souvent ça, mais sans groupe de maison, j'en serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui, autant dans mon identité, qui m'ont beaucoup aidé à me révéler. Et ouais, Dieu a beaucoup parlé auprès de tous ces gens aussi qui sont dans ce groupe de maison. Et je les remercierai jamais assez. Et je vous encourage vraiment à aller à un groupe de maison, parce que c'est là où on peut, ouais, où on peut grandir, et on peut partager notre foi. Et même des fois, si on ne se comprend pas forcément tous, et ben c'est tellement enrichissant d'avoir des avis différents, que ce soit aussi sur des livres qu'on peut lire, sur la Bible et sur des sujets de la vie. Donc, je vous encourage vraiment à venir dans notre groupe parce que c'est le meilleur et on y mange super bien aussi. Et franchement, on rigole beaucoup. Et puis voilà, c'est comme une deuxième famille. Et pour moi, c'est vraiment un pilier.
Bonjour, je m'appelle Vincent, j'habite à Morges, marié avec Nathalie, et on a trois enfants de 9 à 14 ans. Le dimanche matin, on vient généralement en famille à Lazare. Mercredi sur deux, ma femme reste avec les enfants et je vais au groupe de maison avec Daniel et Thierry Joannon comme responsables. Généralement, on se retrouve à Tolochenaz, accueilli chez Sandrine et Carlos. Alors, le programme de base, une prière pour remettre la soirée, un moment de louange, trois ou quatre chants et un enseignement. Et après, on partage sur le sujet que l'on a traité. C'est animé, il y a des échanges, des questions, comment le vivre, des sujets de prière et un moment de prière. En petit groupe, c'est plus facile de faire connaissance, de faire connaissance un peu plus des gens qui habitent ma région. De longue date ou récemment convertis, de familles ou d'éducations différentes, chrétiennes ou pas du tout, on se retrouve avec le but de lever les yeux vers Jésus, de découvrir comment il est, apprendre à le connaître et recevoir ce qu'il a pour nous. Il y a du respect pour chacun, une dynamique positive pour faire un pas de plus, chacun à son niveau. Les responsables du groupe, Daniel et Thierry, accueillent, animent et proposent un sujet ou un thème suivi. Le programme s'adapte suivant la situation. Si une personne du groupe partage une situation difficile qu'il vit, des fois on passe un moment spontané pour intercéder dans la prière. On apprend à déposer ce que l'on a sur le cœur. On remet ensemble à Jésus cette situation. On prie pour rester serein et trouver une issue. Jésus est à nos côtés pour traverser toute situation. On a confiance qu'il va nous montrer un chemin. C'est dans le calme et la confiance que Dieu sera votre force. Ce verset, cher à Daniel, en Ésaïe 30, verset 15, est maintenant gravé aussi dans ma mémoire. Dans le calme et la confiance, on remet notre situation à Jésus et il pourvoit, il donne la force. On peut le savoir dans la tête, mais le faire ensemble, en groupe, en priant, c'est fort. Partager des versets qui nous sont précieux ou nous ont aidés personnellement, particulièrement dans une situation, là on sent qu'il y a des émotions, il y a du vécu. Et tu dis waouh! Tu sors ton stabilo et tu dis ah, moi aussi je vais souligner ce verset. Il y a des personnes formidables parmi nous, et c'est l'œuvre du Seigneur dans les cœurs. Il y a aussi des situations défiantes. On partage des sujets de prière sur le groupe WhatsApp. On a été témoin de belles réponses de prière. On s'encourage pour grandir dans notre foi et dans les projets que Dieu a pour nous. Les sujets et les situations partagées restent dans le groupe. Et des fois, je suis pas super motivé pour y aller. Je me dis, oh, ce sera long, ça va finir tard, je suis crevé, voilà. Mais Allez, je me donne un petit coup de pied aux fesses et j'y vais. Et le Seigneur a toujours un encouragement au travers d'une personne ou l'autre qui me fait dire « Ah ben, j'ai bien fait de me bouger et de me donner un coup de pied. » Et si tu hésites à rejoindre un groupe, eh ben, volontiers, je te donne un coup de pied pour t'aider, bien sûr.
Bonjour, je m'appelle Carlos et puis je vais vous partager un exaucement de prière. Alors, il y a quelques années, mon fils Logan, il a commencé à avoir beaucoup de problèmes à l'école, dû à de harcèlement. Alors, plus les jours, les mois y passaient, plus ça devenait compliqué. Alors, son visage il se refermait de plus en plus. Et puis, nous, en tant que parents, on était complètement démunis. On a décidé de partager ça dans le cadre du groupe de maison. Puis on a prié. Et puis quelques années plus tard, Dieu nous a mis à cœur de le placer dans l'école chrétienne de Lille, la Bergerie. Et nous, avec Sandrine, on a quand même regardé le côté financier. Et puis on s'est dit que ça allait être compliqué, voire impossible. Mais malgré tout ça, on a décidé quand même de faire confiance à Dieu. Et puis, on a été bénis autant financièrement qu'au niveau de Logan parce qu'il a trouvé un cadre sécurisé où il se sent bien et où il a compris. Puis nous, on est rassurés et on est reconnaissants par rapport à ça. Sinon, le groupe Maison, pour moi, c'est une source de bénédiction par rapport au partage, par rapport à... aux échanges par rapport à la méditation de la parole. Puis c'est aussi source de bénédiction pour mon couple et puis pour ma famille.
Bonjour à tous.
Bonjour.
On se réjouit de pouvoir prendre un moment pour partager sur les groupes de maison avec vous.
Et c'est trop bien parce qu'en plus aujourd'hui c'est le dimanche où on peut enfin se retrouver tous ensemble. Il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de masques et on peut... se retrouver, être ensemble pour de vrai. Et pour nous, être dans un groupe de maison, c'est ça. C'est des relations authentiques, c'est vivre l'Église différemment, c'est être connu et reconnu, avoir un endroit où on peut grandir ensemble, partager ce qui est difficile, mais aussi louer Dieu pour les belles victoires. Et ça fait vraiment longtemps maintenant qu'on est dans un groupe de maison. Depuis plusieurs années, on a aussi la responsabilité d'un groupe et... Ce qui nous touche aussi, c'est que même si on est responsable, on reçoit autant qu'on donne. Et c'est vraiment, c'est grandir ensemble, c'est faire ce que Jésus faisait aussi, juste être avec les gens. C'est un bon terreau pour le discipulat. Et la vie de disciple, ça se vit dans les groupes de maison. On vous encourage vraiment à y aller.
Et puis, Carole m'a posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce qui, toi, te donne envie d'aller dans un groupe de maison? Et puis, c'était la bonne question. Je dirais, répondrai en une phrase. C'est l'Église. Et la maison, c'est pas des murs, mais c'est les relations, c'est les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et puis, je trouve intéressant un groupe de maison parce que c'est l'endroit où on peut expérimenter ensemble, vivre la parole de Dieu, et expérimenter les dons de son esprit. On est obligé d'être ensemble pour vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Et si on n'a pas de relation, il n'y a pas d'échange. Je trouve intéressant parce que... c'est aussi permettre à Dieu de manifester sa grandeur, alors que des fois nous on voit notre petitesse. Et c'est chaque fois l'occasion de laisser Dieu nous surprendre par ce qu'il fait, par ce qu'il nous révèle. C'est aussi devenir ensemble, grandir ensemble. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de se voir les uns les autres grandir et de voir qu'on n'est plus les mêmes qu'on était il y a quelques temps quand on a commencé le groupe de maison. Et je trouve ça génial. Je trouve tellement beau de voir comment les gens grandissent, comment... Dieu nous épanouit et Dieu fait fleurir les bourgeons que nous sommes. Mmh. Et ça, c'est peut-être la plus belle chose. Et c'est beau aussi que cette idée qu'on est appelé à laisser Dieu nous rejoindre pour que, voir sa créativité, voir sa création, voir aussi ce qu'on est les uns pour les autres. Et c'est beau de voir comment Dieu nous rejoint les uns les autres sans nous oublier, sans être absent. Dieu est toujours là, ça c'est beau. Alors voilà, on vous laisse avec ces encouragements. Et on vous encourage vraiment à aller dans les groupes de maison.
Mm-hmm. Dire aussi que parfois, c'est vrai que c'est confrontant ou ça peut être un peu difficile d'aller, d'oser, de révéler qui on est, mais ça vaut vraiment la peine. Et puis, même s'il peut y avoir des temps plus difficiles, eh ben, c'est des occasions de grandir ensemble. Et on est tous un peu impressionnés au début, quand on va dans un endroit nouveau. Mais ça vaut la peine. Et c'est une famille qu'on choisit, soit le groupe de maison. Et on vous encourage, il y a beaucoup de groupes de maison à l'église. Il y en a qui sont proches de chez vous, il y en a qui sont avec des gens que vous connaissez peut-être. Allez-y, il y a une liste. Vraiment, regardez et ouais, profitez. Et la prochaine fois, c'est vous qui faites la vidéo, les gars. Bon dimanche.
Bon dimanche.
On peut les applaudir, hein. Voilà, moi j'avais juste une question, je ne sais pas si vous avez la même, mais combien vous avez donné à Laurine pour dire que c'était le meilleur groupe de maison? On va entendre... T'as dit quoi? Ah, c'est un secret. Davy Franco, donc nouveau groupe de maison, peut-être si vous voulez dire un mot, peut-être avec le micro de Daniel, s'il te plaît. Voilà, donc c'est un nouveau groupe de maison qui s'est ouvert ici dans les locaux de l'église. Donc c'est bien qu'il rapidement peut-être donne un petit témoignage également.
Bonjour. Le credo de l'église Lazare est une église vivante à l'intérieur, ouverte à l'extérieur. Et nous, on aimerait être un peu la racine carrée de ce credo dans notre nouveau groupe de maison qui a démarré ici à Lazare le 3 février. On aimerait être un groupe vivant. On aimerait être un groupe ouvert à l'extérieur. Et on aimerait que Dieu libère aussi son esprit. Au travers des personnes qui viendront, on aimerait que Dieu libère son esprit au travers des dons de chacune et de chacun. On aimerait que, par cette racine carrée, on aimerait que les personnes soient vraiment épanouies par Dieu. On aimerait se laisser façonner chacune, chacun. On désire... que Dieu crée des vocations, des nouveaux ministères, des nouveaux dons, si telle est la volonté de Dieu, bien sûr. Et il y a vendredi, j'ai terminé un cours de gym qui était assez intensif au niveau de mon cœur, mais j'ai eu un petit problème il y a quelques mois en arrière. Et en faisant ce cours de gym, qui était vraiment intense, c'était 3 fois par semaine, vendredi dernier, il y a eu un témoignage d'une personne qui s'était fixé un objectif. Et l'objectif était inatteignable, mais par contre, cette personne avait vraiment envie de le faire. Et cette personne, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le Kilimanjaro. OK. Alors, moi, je me suis fixé aussi un objectif spirituel, un objectif sportif. Bon, à l'époque, je courais à peu près 20 km. Là, j'arrive plus, alors on verra. Donc, l'objectif sportif est de courir les 20 km de nouveau. Mais l'objectif spirituel était d'aller vraiment au-delà de ce que nous attendons, aller au-delà de ce que Dieu veut nous donner dans cette racine carrée-là, et je me réjouis de voir vraiment le résultat final. Merci beaucoup.
Bonjour. Eh bien, moi, je n'ai jamais pensé si je serais responsable d'un groupe de maison. Eh bien, ces derniers temps, j'ai eu des songes. Dieu m'a parlé à travers un songe. Et puis, moi, je restais dans les silences. Je n'ai rien dit à personne, même pas à mon mari. J'ai gardé le secret. Et puis, j'ai demandé quand même des signes. J'ai prié le Seigneur pour avoir des signes. Mais tout d'un coup, Christophe m'a proposé et puis voilà, j'ai accepté. Et ma vision, mon but comme responsable de ce groupe de maison, c'est pour aider les uns les autres pour grandir avec les seigneurs, aider pour, même dans la délivrance s'il faut faire, je le ferai. Parce que je sais depuis l'année 84, j'ai eu un appel dans la délivrance que j'ai beaucoup exercé à l'île Maurice. Et même chez moi à la maison, je l'ai fait en cachette, avec des compatriotes, j'ai fait beaucoup à la maison. J'ai prié beaucoup à la maison et que ça, c'est venu à la lumière. Et que j'ai fait aussi avec Christophe et Christian, je les aide. Pas souvent, mais je les fais quand même, de temps en temps. Mais mon but, vraiment, c'est pour persévérer avec les chrétiens qui sont un peu faibles pour aider à grandir, pour aider à marcher en ordre avec les seigneurs, pour aider à s'en sortir dans des difficultés, dans des problèmes, je ne sais pas comment. Mais c'est ça, c'est mon but pour les seigneurs. Eh bien, c'est tout ce que j'aimerais vous dire.
Voilà, merci beaucoup en tout cas. Vous avez vu, hein, il y a des couleurs différentes. Il y a deux groupes de maisons qui sont aussi, qui ont ouvert des groupes Parcours Alpha. Donc je propose juste, certains connaissent déjà la vidéo.
It's just fantastic. I never used to be excited for my life, but now I am.
I said, God, I hate who I am, who I've become. Come into my life.
Now I don't feel alone, and that's just game changing for me.
It was Jesus who radically changed me.
And I don't say it flippantly, I really genuinely do mean this. He's more important to me than the air I'm breathing.
The best thing ever. I was nowhere, you came to my rescue.
From the grave I've been raised. I think Alpha matches much more the life we actually live. We rarely sit in rows and pontificate about truth. It's just a dope way to think about the big questions of life.
Some of you, you need a little different way to access content other than sitting in a church service. And this is what the Alpha Course, which has helped millions in over 150 countries all over the world, is designed to do.
I can say that if every believer in India runs Alpha Course, our country will be saved in no time. You're the light shining bright in the darkness. Jesus, you are the way.
Jesus, the only way. I greatly admire your remarkable work, bringing churches back to life. That, I think, is something truly remarkable and inspiring.
This Alpha leadership is worldwide famous.
Alpha helps us to be less afraid and to find joy in bringing people to Jesus.
The heart of Christianity is to love thy neighbor, and millions do really live that out. I think of the Alpha courses run in our prisons, which work with offenders to give them a new life inside and outside prison.
God has at this time given a family of tools for the job of Alpha, the marriage course, God at Work, the whole range of Alpha courses that enable us to bring hope for the world.
I think Alpha is about to double, quadruple in its effectiveness and influence. I think you haven't seen anything yet. You're the only way.
Voilà, donc si vous voulez plus d'infos, il y a trois possibilités. Vous pouvez aller soit sur le site internet de l'église, vous aurez toute la liste. Vous pouvez soit nous écrire à info@laza.ch pour avoir des informations. Et puis, vous pouvez, à l'issue du culte, aller voir les responsables. Si vous ne savez pas qui ils sont, eh bien vous pouvez demander au service d'accueil ou aux anciens. Ils vont vous diriger. Voilà. Je propose que l'on fasse quelques annonces maintenant. Oui, c'est une bonne idée. Et ensuite, on aura ce temps de communion fraternelle, Sainte-Cène, où d'ores et déjà, comme on l'a annoncé, préparons-nous, on va prendre, je vous expliquerai tout à l'heure, mais on va la prendre par deux ou par trois, et on va avoir ce temps de reconnaissance à Dieu et aussi de communion fraternelle. Attendons-nous à être touchés par la grâce de Dieu et qu'on puisse être aussi un sujet de bénédiction. Un dimanche soir, j'ai eu à cœur de faire ça, c'était une direction, et c'est vrai qu'il y a eu vraiment des bénédictions, et je propose que l'on fasse ça. Donc juste avant cela, comme ça, s'il y a des personnes qui doivent partir, vous avez un impératif, comme je vois que le temps a avancé. Mais ensuite, donc, on va faire ça dans cet ordre. Donc,